RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah!
Yeah! Basket time.
Final seconds. Bryant for the win. Bang!
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC, à télécharger tous les mardis sur rmc.fr. Et c'est un spécial fin de saison avec Sacha Alix, Fred Weitz et Félix Gabory. Bonjour messieurs.
Salut Pierrot.
Sacha Tinted Glasses Alix, parce que quand on est américain, il faut un surnom. Ouais. Et il est avec ses lunettes fumées, c'est un truc, il a un mec, il a moins de 30 ans, il a des lunettes de yeuve.
J'ai beaucoup plus de rien.
Tu sais que j'ai bien plus que 30 ans.
Non, t'as moins de 30 ans. T'as beaucoup plus ?
Ah ouais.
Beaucoup plus.
Tu fais moins.
Tu fais pas moins.
T'as l'élixir de jouvence. Donc, nous allons parler de cette fin de saison. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas parler que des playoffs, mais aussi du vote du MVP. Est-ce que vous trouvez ça logique ? Est-ce que c'est injuste pour Wemby ? Combien de temps faudra-t-il attendre avant qu'il soit considéré comme le meilleur joueur de la Ligue ? Ça, ce sera dans un deuxième temps, mais pour commencer, quelle finale selon vous ? Faites vos jeux, messieurs. Voilà, on va faire un peu de pronostic puisqu'on est en tout début de finale, même si on a vu ce match extraordinaire pour le match 1 entre OKC et les Spurs. T'es régalé, Fred ?
On s'est régalé. C'est magnifique.
T'as mis ton réveil ?
Non, j'ai même pas eu besoin. Mon cerveau était programmé pour regarder le match.
C'est-à-dire que t'as regardé combien de temps de la fin du match ?
J'ai regardé beaucoup parce quart. Que finalement j'ai regardé le dernier quart et les deux prolongations. Donc j'ai regardé beaucoup de temps finalement.
Félix, Sacha, on s'est réveillé ou pas ?
All Possession, tu connais.
All Possession, non, c'est oui. Ce que j'ai fait aussi.
Bah oui, comme ça on est frais
là,
pour le podcast.
Faut faire gaffe à ça quand même.
Mais on arrive en retard quand même. T'es en train de me dire que t'es prêt pour le podcast,
mais
que t'arrives
en retard quand même à cause de ça.
Mais surtout, il y a les alertes voilà, qui nous pourrissent la vie quand même.
Ah non, mais là, du coup, il faut de la maîtrise. Il faut vraiment téléphone en ne pas déranger, couper toutes les notifications. Comme ça, on voit pas les messages de Fred le matin dans le groupe Basket Time. Et comme ça, on est parfait.
Voilà. Alors, quelle finale faites vos jeux ? Le vote du MVP est-il logique ? Et puis, dans la partie historique, vous allez me parler d'un arrière dominant qui n'avait pas un gros tir à 3 points. À l'image de Shea, même si certains estiment qu'à 38% il l'a, mais il ne l'utilise pas. Donc bon, on peut quand même considérer que ce n'est pas son point fort.
Son arme principal en tout cas.
Vous avez trouvé des bons clients ?
Ah oui,
oui, j'ai l'impression.
Il ne me sort pas un obscur, je sais
Josh
pas quoi,
Smith.
Toi. Hein. Ouais, Josh Smith. Hein. Un arrière déjà, on a dit. Hein. Ok, il va me sortir un vrai mec, sens encore.
Mais non. Mais c'est sûr, mais c'est évident. Moi, dès qu'on m'a dit que j'étais avec Sacha, j'ai eu peur.
On va parler de Mike Bibby ou d'un mec comme ça, je
vraiment
sens.
Cette menace.
Oui, t'es cette pour menace. Le basket. Ouais. Pour un mec de moins de 30 ans, t'es hyper menaçant, chaud.
Allez, c'est parti.
Welcome to the 2026 Western Conference Finals. Castle, lobbing. He's unbelievable, folks. He's unbelievable. And the San Antonio Spurs on an epic night from their superstar. 41 and 24 boards for Victor Wembanyama. The Spurs take game one.
Welcome to the Western Conference Finals.
Alors, quelle finale selon vous ? C'est un petit concours de pronostics, mais surtout, on va d'abord s'appuyer sur ce match 1 entre OKC et les Spurs. En double prolongation, victoire des Spurs qui ont quand même été devant presque tout le match. Il y a eu 2-3 moments de bascule, mais à chaque fois, ils ont réussi à remettre la main sur cette rencontre de manière assez impressionnante parce qu'on imaginait quand même que l'expérience d'OKC serait primordiale dans cette série. Manifestement, ils n'ont aucun complexe vis-à-vis de ça, Félix. Hein.
Aucun complexe.
On va commencer par là.
Non, d'ailleurs, Victor, il l'a dit juste après le match. On lui posait la question de savoir si il pensait être au niveau d'OKC. Il a répondu si on joue à notre niveau et si on ne fait pas d'erreur, on gagnera cette série. Donc c'est vraiment ce niveau de confiance là qu'ils ont les Spurs. Et tu l'as vu sur le match parce que, comme tu dis, moi j'ai eu un petit peu peur quand je l'ai vu devant tout le match avec parfois des 8-10 points d'avance. Et quand je vois OKC revenir à la fin, je me dis là les Spurs ils vont louper le coche, ils vont s'en vouloir. S'en mordre les doigts de laisser filer ce game one. Et au final, ils ont réussi de manière assez incroyable parce que c'est une équipe Casey qui a tellement d'expérience, championne en titre, qui est sur un 8-0 sur ces playoffs-là, dans une ambiance de dingue, hein, parce que voilà, la salle du Thunder, c'est quand même une salle de dingue, c'est Loud City. Et ils ont réussi, mais on a l'impression que c'est une équipe de vieux briscards, là, tu vois. Alors que t'as Dylan Harper, ça fait 6 mois qu'il est en NBA, Stephen Castle, c'est ses premiers playoffs, Wemby, on n'en parle même pas. Et ils ont réussi à avoir le mental et la froideur, le côté clinique pour continuer à dérouler leur basket, continuer à dominer OKC sur ce match-là et en tout cas à maîtriser OKC pour maîtriser ce retour d'OKC. Donc non, très très impressionnant et ça nous embête beaucoup Pierrot pour nos pronostics hein, justement ce match 1.
Pourquoi ?
Bah, parce que sur la question quelle finale, avant le match, moi je voyais évidemment OKC.
Est-ce pour, que ce pour l'expérience tout vraiment.
Ce match 1 change pas tout, mais par
ils sont
contre,
capables d'aller gagner à San Antonio.
Bien sûr, hein. Mais par contre, déjà l'avantage du parquet est repris et surtout sur ce match 1, on voit que les Spurs sont vraiment au niveau et c'est ce qu'ils nous ont montré toute la saison. À chaque fois qu'on se demande si on réussira à passer les steps, ils arrivent à le passer ce step-là. On l'a vu sur la régulière, on l'a vu sur le premier tour des playoffs, sur le deuxième tour des playoffs même contre Minnesota où on s'est dit tiens, ils sont rentrés dans la bouche, ça va être compliqué, est-ce qu'ils vont pouvoir répondre. Là, pareil, on se dit ah en face c'est les champions en titre, c'est OK ici, c'est un rouleau compresseur, mais non, pas de problème, ils arrivent à se mettre au niveau. Donc ils nous embêtent beaucoup pour nos pronos ces Spurs parce qu'ils ils repoussent sans cesse les limites.
Alors garde-en, tu me donneras ton prono plus tard, Fred.
Non, j'ai été très impressionné. Évidemment que bon, on peut pas dire le contraire. C'est une évidence. Après, j'ai envie de retenir des facteurs quand même intéressants pour San Antonio, qui étaient gênants pour OKC. OKC, ils ont fait deux séries où c'était très simple pour eux, où finalement il n'y avait pas vraiment ce combat physique, cette intensité, cette dureté que San Antonio a dû affronter contre Minnesota. Alors oui, Minnesota, c'est pas forcément la meilleure équipe du monde, mais par contre, dans la dureté, dans l'intensité, ça te prépare quand même à des vrais affrontements. Donc, j'ai envie de minimiser, entre guillemets, un petit peu cette victoire. Alors, minimiser, c'est hyper difficile, hein, parce que faut quand même aller se les coltiner, il faut quand même aller se les battre. Mais dans l'absolu, tu viens de sortir de 2x4-0.
Ça te semble pas illogique.
Alors, je sais pas si illogique ou pas, mais en tous les cas, que OKC ait du mal à commencer le match, ça me paraît normal. Déjà.
La série, pas, tu veux dire.
Non, le match.
Parce que
directement, l'équipe d'en face a un peu plus de rythme, que eux, ils viennent de se balader, entre guillemets, même si c'est un peu réducteur, mais ils se baladaient, entre guillemets, sur les deux premiers tours. Donc j'ai envie de dire que le début de match soit à l'avantage des Spurs, je trouve ça assez normal. Après, je rejoins Félix, qui réussisse dans les moments difficiles à se transcender, à redonner un petit coup d'accélérateur, de se retrouver à faire cette dernière prolongation à 14-7, où ils sont vraiment monstrueux, ça m'impressionne plus.
Parce que le rythme, ils l'ont retrouvé, hein, justement. Le match, il a duré 58 minutes.
C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis, oui, c'est logique qu'ils soient devant pendant la première période, le temps qu'OKC se remette en place. OKC se remet en place sur le début de deuxième mi-temps, et là, tu vois les Spurs, bah, au lieu de s'effondrer, être toujours très vaillants, sachant qu'ils ont quand même perdu 21 ballons, que Fox ne jouait pas. Je me dis qu'il y a quand même plein de choses hyper intéressantes, mais en même temps, si on m'avait dit avant quel match doivent gagner les Spurs et en tous les cas, en plus de chance à l'extérieur,
c'est le match 1. Sacha.
Ouais, moi je suis assez d'accord avec Fred. OKC était reposé et en fait en manque de rythme, c'est pour ça qu'il laisse passer un petit peu ce match 1. Ce qui fait peur, c'est que quand il s'ajuste, je pense que c'est la tonalité qu'on va avoir sur cette série-là. C'est et que ça. S'ils commencent les matchs de cette manière-là, OKC, ils vont être très dangereux. Ils ont été globalement assez maladroits, je trouve, à l'exception d'Alex Caruso. S'il n'était pas là, ils étaient totalement perdus sur le début de match. Donc si normalement ils abordent le match avec les forces qu'on connaît au OKC, je pense qu'ils ont toujours l'avantage sur les Spurs. Par contre, vraiment afficher ce niveau-là pour les Spurs pour une première grosse opposition, c'est dingue. Harper, ce qu'il fait sur un match rookie comme ça où tu sais que Fox n'est pas là, et Fox, s'il revient, va faire beaucoup de bien, je pense, aux Spurs avec son expérience et dans le clutch time. Elle est folle, cette équipe des Spurs. Je pense que on est tous très surpris, en plus, de cette maturité dans les moments chauds, comme Félix l'a dit, en play-off, tu peux mener tout le long, effondré sur le quatrième, et c'est l'équipe la plus solide qui passe, et c'est arrivé à beaucoup beaucoup d'équipes. Je me rappelle le hit de Butler quand c'est dans la bulle, il gagne les matchs vraiment sur les 5 dernières minutes à chaque fois, et c'est là où tu vois les très très grandes équipes, et que les Spurs soient en capacité de gérer ces moments-là, en fait ça en dit long sur leur caractère et la maturité très précoce qu'ils ont. Ils sont prêts à répondre à ces défis-là et ils sont venus gâcher la fête du MVP de Shea, et on sait que c'était personnel parce que Victor l'a dit, oui, je suis là pour gâcher la fête un peu, et ça devient personnel parce que c'est le MVP que je n'ai pas eu et j'aimerais en avoir, et franchement il l'a démontré sur le terrain parce que ce shoot à 10 mètres, il est juste fabuleux.
Après, là, moi ça je sais pas quoi en penser.
De
Ce shoot pour égaliser à 10 mètres.
Et en fait, il le rate, tout le monde va dire ah, c'est nul, quel mauvais choix. Il le met, c'est magnifique. Ouais. En fait c'est ce type de shoot-là.
Mais
avoir
shoot,
le culot, le
si,
point,
si,
mais,
le si mettre, tu le mets, c'est forcément bon shoot.
Je sais pas, voilà, parce que c'est forcément un bon shoot si tu n'as plus de chrono, mais ils ont quand même un peu le temps de poser quelque chose. Hein.
Il est un peu rapide.
Ok, c'est la NBA, c'est comme ça va.
Non, je suis d'accord avec toi, il est un peu rapide.
Donc il le met, ça lui donne raison, il n'y a pas de souci. Mais Quand il le prend, franchement, on est tous en train de se dire maintenant.
Ah oui. Mais c'est un coup sur la tête. C'est toujours ce.
C'est un coup sur la tête.
C'est, ouais, voilà, c'est risque-récompense. Bon, là, t'es récompensé et ça met un gros coup sur la tête d'Okaïsi parce que.
Là, t'as mis 500 ouais, dollars mais, sur le ouais, 0 à la roulette.
Ouais, ouais,
tu le rates, tu redonnes le ballon aux autres.
Ah, c'est terrible. C'est fini. Le match est fini.
Et là, aujourd'hui, on débat.
C'est ça aussi.
Et là, ce matin, on débat tous du très mauvais choix de OMB. Mais il est un peu ouvert.
Il est très loin et il soit ouvert quand même. C'est pas un shoot normal.
Mais ça met ton équipe dans une euphorie
dans un mood
où tu te dis
ah ouais c'est on bon va les déterminer
il est là oui, on va être avec lui
c'est une piège de terminer quand même
bien non, mais je suis 100% d'accord
en fait, il faut très loin même bien Caruso sûr. Qui est quand même un énorme défenseur lève même pas le bras il y allait prends le celui-là
il faut pas qu'il refasse ça en fait. En fait, c'est très bien de l'avoir fait, mais
s'il a envie de remettre des trois aussi,
bah, non, mais
ça peut pas être une manière de gagner. Grand, parce que... Moi, je trouve quand même. C'est dans ce genre d'action, et c'est toujours des actions
oui,
très
mais
discutables.
Mais
tu vois.
L'action restera iconique si elle est unique, en fait. Parce que s'il leur prend trois autres dans la série, il va pas les mettre. On est d'accord, quand même.
Il les mettra pas tous.
Ou alors, c'est Jésus.
Mais on retiendra que sur ce match-là, il l'a mis et ça a permis aux Spurs de s'arracher la prolongation. Et d'ailleurs, ça vous rappelle rien ce shoot exactement dans la même salle qu'un autre shoot assez iconique, qui était aussi un mauvais shoot. C'est Steph Curry le shoot qu'il met contre le Thunder justement.
Il y a pas de mauvais shoot avec Steph Curry. Pas.
Non mais
c'est. Réellement sur la capacité à être dans les moments chauds, prendre des shoots à trois points, il y a pas de mauvais
mais
shoot.
Mais ce que tu regardes, c'est vraiment l'effet miroir des deux actions, c'est le même shoot. Et à l'époque, Curry c'était aussi, on disait c'est un mauvais shoot, il restait un temps mort. D'ailleurs, tu entends le commentateur qui dit ils auraient dû prendre un temps mort. Curry qui dégaine à 8-9 mètres et ça fait.
Alors le point commun c'est que ça met des clims dans les deux cas, c'est qu'il y a une clim dans la salle qui s'installe, c'est fou.
Est-ce que le manque de réussite d'OKC est due à une mauvaise soirée ou à la défense des Spurs?
Bah ça dépend, le manque de réussite de qui? Si tu parles de Shea, c'est la défense. En fait, il a deux lames. Il a la première lame défensive sur lui, en homme à homme, qui le prend, qui le pousse, qui l'impacte, etc. Et quand il se rapproche, il y a Wemby derrière. Donc forcément, c'est extrêmement difficile. Mais pour les autres, quand Lou Dort est ouvert à 3 points,
les autres n'ont pas shooté, en fait. C'est-à-dire qu'il y a Shea et Caruso qui ont shooté, hein, c'est tout. Hein.
Alors principalement, mais par exemple, j'ai le souvenir de Lou Dort. Ça a shooté un petit peu à 3 points. Ça n'a pas marqué de fou, mais ça a marqué quand même dans l'absolu. Moi je ne suis pas choqué par leur pourcentage de réussite. Moi, ce qui me choque, c'est la première mi-temps de Shea.
Ouais.
Shea, il a vraiment mis du temps à s'adapter. Ils ont dû relâcher un petit peu les freins.
Il a 7 sur 23, ce qui est quand même vraiment pas ouf.
C'est pas ouf, mais surtout, je crois qu'il met 4 points dans la première mi-temps. Donc, ça veut dire qu'ils l'ont vraiment bien cadenassé. J'ai beaucoup aimé Carter Bryant sur lui, même s'il n'a pas joué énormément quand il a été sur lui. Il a été excessivement bon. Après, t'as Cassel, Dylan Harper. Ça peut se relayer sur lui. J'ai même vu Keldon Johnson pas mauvais sur lui.
Ils ont tellement de matos envoyé les Spurs.
Ils ont tous envoyé de la viande sur lui et franchement, c'était très impressionnant.
Alors, petit tour de table. Donc, est-ce que ce match 1, cette victoire des Spurs, change la donne sur votre pronostic, Fred?
Non.
Non.
Non, non, pour moi. Oui, mais c'est complètement difficile de le dire alors qu'ils viennent de perdre. Hein. Mais moi, je pense qu'ils sont capables d'aller reprendre l'avantage du terrain à San Antonio. Donc, je pense que ça ira en 7 et que sur le match 7, piège jeté en l'air, mais peut-être OKC. Okay,
Félix.
Avant le match d'hier, je voyais un 4-2 pour OKC. Et là, j'ai envie de dire, allez, un 4-3 pour OKC. Parce que Game 7 à la maison, pour le Thunder, ça le prendrait. Mais tu vois, si de match en match, à chaque fois, les Spurs gagnent une victoire, ça va finir à 4-0 Spurs, quoi.
Sacha, tu nous as déjà à moitié répondu.
Ouais, non, moi, je vais dire OKC. J'attends le Game 3. Je trouve que souvent, dans les séries très disputées, c'est ce qui va donner la température de la suite, les ajustements du coach.
Impair, surtout.
Oui, les matchs impairs.
Voilà. Moi, après le Game 3, j'aurais vraiment un prono fiable.
Alors après,
après le Game 7, moi je suis sûr de savoir.
De l'autre côté, on ne sait pas ce que ça va donner. Ça peut être moins défensif, mais ça peut être très spectaculaire aussi entre New York et Cleveland en fin de compte. Hein.
Moins beau basket.
C'est pas le même basket, mais honnêtement, on a pris du plaisir avec New York dernièrement.
Oui.
Cavs, sur le dernier match, ça nous donnent du plaisir aussi. Peut-être qu'ils ont trouvé la formule.
Ça peut faire des matchs à 260 points par contre.
Ça peut faire des
matchs. T'as pris du plaisir avec le dernier match des Cavs, toi?
Ouais. Ouais. Parce qu'ils ont trouvé enfin les big men. Mais en fait, vous aimez pas les grands aussi, c'est le problème.
Je suis à la table
des Dan Jardin là aussi. Évidemment, ils vont pas aimer les grands. Mais non, Jarrett Allen a été très bon. Mobley a été très bon aussi. Je suis très content que, comment il s'appelle, Sam Merrill sorte du banc et qu'il apporte. Je suis très content que Kenny Atkinson ait enfin changé son 5. Parce que Dean Wade, moi j'en avais marre de le voir dans le 5 majeur. Max Truch, je le préfère. Je pense qu'il y a des ajustements. Je pense que ça joue mieux. Et il y a pas si longtemps, j'aurais dit New York facilement. Je suis un peu moins sûr.
Ouais, pour quelle raison?
Ben parce que je crois qu'ils ont trouvé une formule pour être plus dur, parce que dans les matchs couperés, ils sont là. Parce que Jared Allen sur les matchs 7 est très bon, parce qu'il trouve des solutions à chaque fois. Ils s'en sortent contre les Raptors au match 7, ils s'en sortent contre les Pistons au match 7. Ça veut dire qu'ils ont dans la tête quelque chose, ils sortent de l'enfer, alors que New York, ça a été plus simple sur les
matchs précédents. Moi, je suis d'accord avec Fred, ils ont connu des difficultés sans nom, là où les Knicks ont déroulé à partir du Game 3, je crois, face aux Hawks, où vraiment ils commencent à tout emballer. J'arrive pas à vraiment me faire une idée sur cette finale à l'Est. Évidemment, c'est pas le même basket, c'est un peu moins collectif. Les Knicks, je trouve que c'est beaucoup d'adresse extérieure, beaucoup ce côté rugueux en défense. Cleveland, tu sais pas, c'est une équipe qui est totalement bipolaire. Elle peut faire un match excellent avec un Mitchell au top, Harden au top, etc. Dur dans la peinture et puis après complètement disparaître. Franchement, c'est super dur. Je suis pas hyper séduit par les deux équipes, même si ça s'envoie bien. J'ai l'impression que Cleveland peut faire une surprise à ces Knicks parce qu'ils ont des armes qui correspondent aux défauts des Knicks. Dans le sens où les Knicks, ils ont été très dominants sur les rebonds offensifs, etc. Je pense que les Cavs peuvent aller challenger là-dessus. Je pense que ça va être galère pour eux de défendre et Harden et Donovan Mitchell aussi. Je pense que ça va beaucoup attaquer sur Brunson, sur Towns, etc. Donc si Cleveland arrive à trouver la régularité et les ajustements, il y a quelque chose à faire. Maintenant, les Knicks, vraiment, ils ont une adresse qui est phénoménale. Anunoby, il va revenir plus frais qu'avant, et ça, il a été excellent, moi, je trouve, sur le début des playoffs.
Peut-être un des meilleurs Knicks, le meilleur Knicks même.
S'ils ont encore cette adresse à 3 points, honnêtement, ils sont injouables, les Knicks à l'Est. Ça, par contre, c'est que si ça continue à rentrer, c'est impossible de faire quelque chose. Ça rentre sur tout le monde, ça rentre quand c'est contesté, et en plus, même quand l'équipe adverse a des tirs grands ouverts, ça rentre pas. C'est-à-dire qu'ils sont quand même intimidants, cette équipe des Knicks, dans cette manière de jouer, mais je pense qu'ils sont renversables.
Non, et les Knicks, on n'a même pas parlé de la bascule absolument irréelle qu'ont eu les Knicks depuis le premier tour. Sept victoires de suite. Au milieu du premier tour contre Atlanta, c'était horrible sur les 3 premiers matchs. Il y a eu une bascule qui correspond à un changement de rôle de Karl Anthony Towns. Coach McBrown en a beaucoup parlé en conf de presse. Il a remis Towns dans un rôle un peu à la Jokic, Draymond Green, c'est toi qui distribue tout le jeu. Ça libère des espaces pour Brunson. Quand tu vois les stats de Towns, sur le deuxième tour des playoffs, il est à 15,7 points, 9,6 rebonds et 8 passes de moyenne. En carrière, Towns, il tourne à 3 passes de moyenne. Là, il est à 8 passes, ils sont complètement transformés. Et là où avant, les Knicks, c'était horrible à voir jouer. Là, maintenant, c'est où c'était que du 1 contre 1, où tu dépendais que du talent de Brunson ou de 4 dans la peinture. Là, c'est vraiment une belle équipe à voir jouer. Et c'est un rouleau compresseur. Ils sont sur 7 victoires de suite. Et Fred, l'écart moyen, c'est 26 points d'écart sur cette série.
C'est n'importe quoi.
Ils sont en train de rouler sur tout le monde.
Je suis d'accord, mais finalement, les deux équipes qui sont affrontées à Atlanta a fait illusion au début. Après, ils se sont fait massacrer. Et je suis désolé, les Sixers, c'était quand même plus dans la difficulté. T'avais Joel Embiid sur une patte.
Ouais.
Il faut quand même recontextualiser aussi.
Demande à Boston ce que ça fait d'affronter les Sixers. Pour le coup, les Knicks, ils ont sweepé une équipe qui avait sorti Boston, qui était le favori de l'Est. Donc,
j'ai peur du côté, les Sixers voulaient absolument sortir Boston. Et en fait, une fois qu'ils ont fait ça, ils ont accompli leur play-off, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi, franchement, je trouve que c'est basique, mais ce qu'ils ont trouvé comme recette, les Knicks, ça marche hyper bien.
Oui,
c'est beaucoup moins travaillé que ce qu'on voit à l'Ouest, mais c'est tout aussi efficace. Et en play-off, tu as besoin d'efficacité et ils l'ont.
Alors, est-ce que Cleveland est capable de limiter l'attaque de New York, parce qu'on a vu beaucoup de paniers faciles, notamment de Brunson, qui avait des espaces. Alors, je sais pas, moi, je peux pas vous expliquer, vous êtes mieux placé que moi, mais comment il se crée ces espaces-là. Mais c'est souvent facile pour lui. Il est très bon shooter, très adroit. Est-ce qu'il y a un moyen de limiter ça? Parce que quand tu as l'impression que quand il démarre, il est inarrêtable avec main gauche.
Il y a deux choses. On parlait de Karl Anthony Towns. Je pense que du côté de Cleveland, on a des joueurs capables de lui mettre la pression pour qu'il passe le ballon moins facilement déjà. C'est-à-dire qu'au lieu de reculer sur lui, on va pouvoir l'agresser un petit peu.
Est-ce que tu peux faire des prises à deux, par exemple, sur Brunson? Est-ce que c'est efficace?
Je pense qu'il y a aussi de la viande pour défendre sur lui du côté des Cavs. Je pense qu'il y a plus de viande.
On va pas envoyer Harden Brunson.
Je pense que non, mais Max Strus, par exemple, moi, je pense qu'il peut défendre sur lui. Je pense que c'est quelqu'un qui peut le faire. Je pense que Schroeder sur des séquences, il peut le faire aussi.
Schroeder qui est pas mal d'ailleurs.
Oui, qui apporte aussi. Il y a un banc, il y a de quoi faire. Mais je te dis, je pense que je suis d'accord avec mes collègues pour une fois. Karl Anthony Towns est au centre de l'attaque. Si tu l'empêches de faire les passes comme il le veut, s'il a moins d'espace, quand il est l'attaque sur un Joel Embiid notamment, alors il n'a pas fait que ça parce qu'il n'a pas tout le temps été là, il a de l'espace que Joel Embiid recule sur lui, il est moins mobile. Quand tu as des mecs mobiles sur lui qui vont le gêner, qui ont des grands bras, qui vont le contester, eh ben vas-y, va t'amuser à faire 8 passes de moyenne.
Comment Jarrett Allen, pas Jarrett Allen, mais Evan Mobley peut s'occuper de Karl Anthony Towns, peut-être, non
sur ce, sur physiquement, ça va être dur. Hein.
Moi, j'ai du mal avec Mobley. C'est un très fort joueur, mais je le trouve tellement soft. Ouais. Tellement soft.
C'est pas le boulot qu'il faut lui donner, celui-là.
Non, c'est clair, mais on aide, oui.
Oui, bien
si
sûr.
Si tu mets Jarrett Allen sur lui et derrière, l'aide, si ça pénètre.
Même si Towns joue un peu plus reculé. Tu peux lui envoyer Jarrett Allen sur la truc
Je pense qu'il est mieux. Il est mobile, c'est surtout qu'il va essayer de contester les shoots quand même, et puis que Karl Anthony Towns ne va pas pouvoir l'enfoncer aussi facilement qu'un mobile, par exemple. Mais par contre, si t'as mobile derrière, s'il pénètre et qu'il va te gêner, ça peut être intéressant en deuxième lame.
Donc, petit pronostic, Fred.
Waouh, c'est dur. C'est extrêmement difficile. J'ai craché sur les Cavs depuis le début, donc j'ai envie de dire victoire des Cavs.
Voilà. Très bien. Ça s'appelle l'humilité de Fred. Félix.
4-1 Knicks.
Ah oui, quand même.
C'est large. Ils sont sur une dynamique absolument folle. Et en face, t'as les Cavs qui je trouve absolument horribles. Ils sont horribles à regarder. Ils ont battu des équipes qui étaient juste moins fortes qu'eux.
Ils n'ont pas stoppé, eux. Ils se sont battus depuis le début. Alors ça que dépend. Les Knicks sont arrêtés un petit peu là.
Je trouve que ça dépend quand même beaucoup. Du match de Donovan Mitchell et Harden, c'est-à-dire que parfois quand même quand ils arrivent à laisser s'exprimer leur génie, c'est quand même
c'est sympa.
C'est quand même les joueurs cool quoi.
Oui, non mais du coup,
je suis désolé. Alors c'est vrai que parfois j'ai envie de les baffer parce qu'ils sont nappes. Ouais.
Non mais notamment sur James Harden,
des balles très importantes.
Il a été très bon Donovan Mitchell sur le match 7, très bon.
Et non mais leur vraie force c'est que en plus tu peux avoir si quand un des deux, Harden ou Mitchell, est dans un moins bon soir, l'autre peut prendre le relais. Et ça arrive très souvent qu'ils soient dans un mauvais soir, notamment Harden. Toi, tu parles de James Harden.
Il n'a pas fait que des mauvais matchs,
Mais quand ça arrive dans le clutch time, il a quand même tendance à vraiment disparaître.
T'as vraiment envie de lui tirer les oreilles ou la barbe. Ouais.
Et moi, tu vois, Pierrot, j'ai pas de maison, mais si j'en avais une, je la parierais pas sur James Harden en playoff, quoi.
Sacha,
je vais mettre Cleveland parce que j'ai quand même cette sensation que les Knicks sont un peu en sur-régime. Ils ont surproduit finalement sur les premiers tours et je pense que la réalité peut venir les frapper sur cette finale-là.
Vous connaissez le scénario, le scénario que personne n'imaginait, C'est les Spurs qui tapent au KC et New York qui tape les Spurs en finale. Vous savez que ça peut arriver, ça. Vous savez que ça peut arriver, ça. Parce qu'on l'a vu quand même, le match-up n'est pas très favorable aux Spurs. On l'a vu en NBA Cup. Il n'y a plus de photos quand même.
NBA Cup, c'est un match.
Mais c'est un match qui compte quand même.
Oui, mais sauf que
t'as le contraire.
Il y a l'avantage du terrain pour les Spurs dans ce cas-là.
Soit,
mais dans le coaching, je mets quand même une pièce sur les Spurs. Dans le sens où, dans les adaptations.
Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas.
Ils ont quand même plus de chance face aux Spurs que face au KC, non? New York.
Mais moi, je trouve qu'on sous-estime vraiment New York. Je trouve que vraiment, ils font partie des vrais prétendants au titre. De toute façon, il en reste plus que 4. Même quand tu regardes les bookmakers, c'est un peu dans un mouchoir de poche les 3 premiers, et c'est les Cavs qui sont loin derrière dans les bookmakers. Franchement, les Knicks, même on a tout parlé un peu de tous leurs ajustements. Ils ont une profondeur d'équipe. Ils ont 8, 9, 10 joueurs. Je pense que c'est le meilleur noyau de 8, 9, 10 joueurs sur les 4 équipes qui restent.
Les Knicks?
Ah oui.
Attends, quand même, rien que les Cavs ont quand même.
Quand tu regardes vraiment les rosters,
quand même.
Mais il n'y a pas de dépassement de fonction aux Knicks, ils savent tous quoi faire. C'est pour ça que je dis que c'est assez simple. Ça a vraiment cette vibe un peu Miami, tu vois, où il y avait Butler et les autres qui étaient autour. Moi, je trouve qu'il y a ce côté-là, un petit peu chez les Knicks, où vraiment, les mecs n'ont pas de dépassement de fonction. Ils font ce qu'ils font, ils le font super bien et ça rentre.
Il y en a un seul qui n'a pas donné la finale logique, c'est Sacha qui nous donne un OKC Cavs, si j'ai bien suivi.
Ouais.
Allez, on passe au MVP.
The 2025-26 Kia NBA Most Valuable Player, Shai Gilgeous-Alexander.
Only a few select players have won back-to-back MVPs. Shai, you now join that elite group. Congratulations.
Gilgeous-Alexander, the spin, open three. That one bounces in.
I love MVPs. I love All-Stars. I love all the accolades that comes with it, but none of it matters if you don't win.
Gilgeous-Alexander with three-pointer, knocks it down.
This man is standing in everybody's way.
The NBA Most Valuable Player, Shai Gilgeous-Alexander.
Alors, la NBA a livré son verdict. Le MVP, c'est Shai Gilgeous-Alexander. Et on va donner le détail de vote qui est très intéressant. En termes de points, donc, il y a une marge. En termes de première place, il y a un gouffre. Shai termine premier avec 939 points devant Jokic avec ses 634 points. Et Victor est juste derrière à 589. Victor qui a cumulé beaucoup, beaucoup de deuxième et troisième place et qui est finalement à la lutte avec Jokic, mais pas avec le Canadien, qui a sur 100 votes 83 premières places quand même, ce qui est colossal. Question toute simple, et ce vote vous semble-t-il logique, Félix ?
Complètement logique. J'ai absolument eu aucune surprise en découvrant le vote depuis plusieurs semaines où à chaque fois moi qu'on me posait la question de dire est-ce que Wemby peut le faire, est-ce qu'on peut avoir une énorme news avec Wemby MVP, ce qui serait quand même un truc de dingue. Pour moi, il y avait aucun monde où Wemby terminait MVP. On s'est posé un tout petit peu la question en fin de saison régulière quand il avait fait notamment sa grosse déclat en conférence de presse où ça avait changé un peu son statut de favori, que ça l'avait ramené très très haut dans la course. Mais il a très mal fini. Enfin, Wemby, il a été pénalisé par sa dernière semaine de régulier, ou ses 10 derniers jours, où il se blesse, il manque des matchs, et donc il est sorti définitivement de la course à ce moment-là. Mais même à l'époque où Wemby a été revenu un petit peu dans cette course, pour moi, Shea a toujours été l'immense favori. Tout simplement, on en avait d'ailleurs discuté dans Basket Time, tout simplement parce que quand tu regardes les critères, et c'est ce qui a été fait depuis toutes ces années en NBA, c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe, qui a été le plus régulier sur absolument
à l'exécution
toute la saison
de Russell Westbrook.
Ouais, bah après Russell Westbrook, c'est parce que c'est
un truc inimaginable.
C'était parce que c'était un truc historique. Mais sinon, Shea, et c'est surtout aussi la récompense de la régularité. Là où en fait Wemby, alors oui, il a fini très très fort sa saison et il a eu un coup d'accélérateur en février-mars. Mais il faut se rappeler que Wemby, il a loupé 10-12 matchs au mois de novembre-décembre. Il en a fait 6 ou 7 après quand il est revenu de blessure où il était en sortie de banc. Il a été très limité en nombre de minutes. Donc en fait, oui, il a fini très fort, il a été très impactant dans la tête des votants. Mais sur la régularité, sur la saison régulière, bah, c'est Shea et c'est complètement logique.
Fred.
Évidemment, je ne partage pas du tout ce que vient de dire Félix.
Pour
deux raisons. La première, je trouve que 83% des votes, c'est beaucoup trop. Je trouve que je pense que ça aurait dû être beaucoup plus serré. Et ensuite, oui, je suis d'accord, Shea a fait une saison fantastique, une saison incroyable. Mais je me pose la question, réellement, et je pense avoir la réponse, mais après, je peux me tromper. Lequel des trois a le plus d'influence sur son équipe quand il est sur le terrain?
La question
c'est de savoir c'est qui a le plus d'influence, qui quand il sort c'est le plus catastrophique. Pour moi, le premier c'est Jokic, le deuxième c'est Wemby et le troisième c'est Shea. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu.
C'est un raisonnement qui va à l'inverse du meilleur joueur de la meilleure équipe, puisque par définition, la meilleure équipe est un peu moins dépendante de son meilleur joueur.
Mais je l'entends. Mais ce que je veux dire, c'est que dire de façon péremptoire le meilleur joueur de la meilleure équipe, c'est le meilleur choix. Non, c'est pas vrai.
Non, mais ça,
c'est
moi, je suis d'accord avec toi.
C'est un des
c'est
choix.
La facilité.
C'est un des choix. Oui, ça me choque pas de me dire que chez meilleur joueur de la meilleure équipe soit MVP, ça me choque pas. Mais est-ce que c'est le seul choix qu'il pouvait y avoir?
Est-ce que le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe? Pas forcément.
C'est ce que je suis en train de dire. Donc je ne suis
le
pas d'accord avec
monde,
avec
c'est
Félix.
Jokic,
pour moi, le meilleur joueur du monde sur la saison régulière, parce que j'ai vraiment pas envie qu'on prenne en compte les playoffs. Les playoffs ont été un peu catastrophiques, je trouve, pour Nikola Jokic, notamment défensivement. Mais celui qui a le plus d'impact sur son équipe, qui, quand il sort, est le plus oublié, perdu. D'ailleurs, Valanciunas va être viré parce que justement, il n'a pas réussi à trouver cet apport malgré la bonne signature au départ. Pour moi, c'est Nikola Jokic. Et le deuxième, c'est même pas Shea, c'est Victor Wembanyama. Donc, je ne suis pas d'accord avec Félix. C'est un choix comme un autre. On peut le respecter, mais ce n'est pas le seul choix possible.
Sacha.
Je suis partagé entre les deux. Ils ont de bons arguments. En fait, la fin de saison de Wemby, je pense qu'il y avait deux choses qui devaient se passer pour que les votes soient un petit peu différents. C'était remporter l'opposition directe face à Jokic, mais vraiment lui mettre un tarif pour que finalement il puisse se distinguer et qu'il y ait un petit craquage du côté d'OKC. Il n'y a aucun des deux qui a eu lieu, donc je ne suis pas vraiment choqué. Maintenant, sur l'interprétation de ce qu'est un MVP, c'est là où c'est un débat qu'on peut avoir très très souvent. Bien finalement, sûr. Est-ce que c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe? Est-ce que c'est le joueur le plus impactant? Même, tu vois, sur la notion du joueur le plus impactant, j'aurais tendance à dire que Wemby est presque au-dessus du Jokic, comme c'est les deux côtés du terrain, tu vois.
Okay. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Ça peut discuter. Ça peut discuter pour moi.
Mais je comprends aussi le fait qu'on puisse être lassé d'un Shea qui est MVP deux fois de suite, d'un OKC qui a roulé sur la NBA, et t'as envie d'un renouvellement, et aussi parfois t'as envie de pas gâcher la carrière de Jokic en se disant c'était quand même un joueur qui méritait d'avoir plein de MVP, tu vois, pour l'impact qu'il a eu sur ce basket-là. Donc,
Mais c'est pour ça que pour moi, la discussion, c'était entre Shea et Jokic.
Ouais,
donc,
d'accord.
À la question, est-ce qu'on est surpris que ça soit pas Wemby? Bah non, parce que pour moi, le seul qui pouvait créer la surprise face à Shea, c'était Jokic. Ouais. Mais c'est plus impactant.
Mais c'est vrai que si on arrive à sauter de l'esprit les playoffs abominables de Denver, si tu te souviens de la saison régulière, je veux dire, mais chaque soir où il a joué, parce qu'il a été blessé pendant un mois en gros, Jokic a fait des choses extraordinaires. Et en fait, quand tu dis on s'habitue, on est lassé de Shea, moi je trouve que c'est plutôt l'inverse. En fait, on s'est habitué à ce qu'un extraterrestre joue à la fois comme un meneur et comme un pivot en
meilleur
tous les soirs
à Denver. Meilleur passeur de la
meilleur rebondeur et meilleur passeur alors en qu'il est intérieur.
Non, t'as raison.
C'est fou. C'est complètement fou en fait ce qu'il fait chaque soir ce mec-là. Alors, vous, Victor aussi, c'est fou. Mais je trouve avec un peu moins de régularité et notamment dans les matchs de fin de saison où, alors je sais plus contre qui, je crois que c'est contre Denver qu'il a un shoot pour gagner un match très important dans le classement final. Ouais. Bon, au final, n'aura pas d'importance puisque les Spurs ont été bien meilleurs, mais peu importe. Ce match-là lui coûte un peu, je pense.
Et c'est son duel contre Jokic, justement.
Alors que Jokic n'a jamais été décevant. Alors, il a été décevant en play-off, on l'a déjà dit, mais dans la saison régulière, moi, j'ai jamais vu en dessous.
Après, c'est parce qu'OKC a été impressionnant cette année. Rappelez-vous quand même, quand on faisait des podcasts en début d'année, on était en train de dire ouais, OKC, okay, si, ils vont battre le record de matchs gagnés sur une saison. Tu vois,
ouais,
on était dans cette
projection-là. Tu sais ce qu'on disait aussi, Sacha ? On disait aussi, Shea ne joue pas les quatrièmes cartons. Hein.
Oui, parce qu'il y a.
Mais non, mais je suis d'accord. Sauf qu'il faut quand même aussi dire la vérité. Si on considère que Victor n'a pas été toujours très bon, Shea ne jouait pas les quatrièmes cartons.
Ah, mais bien sûr. Mais c'est ça qui est un petit peu biaisé sur Shea. C'est que je pense qu'OKC, okay, si, même avant le début de saison, fait tellement peur et on est tellement sûr qu'ils vont retourner en finale et qu'ils vont gagner que tu sais quasiment que ça va être le meilleur joueur d'OKC okay, si, qui va être MVP finalement. Oui. Ça, on s'en doutait tous.
Mais t'inquiète pas, il n'y aura pas de troisième.
Tu crois ?
Non.
Je pense que c'est quand ?
Bah non, parce que là, il va être pénalisé par l'habitude des votants.
Bien sûr, on va changer. Ah oui, le prochain, 3 de suite. Avec la même saison,
c'est
Victor.
C'est Wemby. Bah, surtout que lui va être en mission l'an prochain.
Rappelez-vous, le bashing.
Ils vont essayer d'être premier. Donc il va jouer beaucoup.
Il va jouer
impactant.
Il faudra qu'il réussisse à enchaîner les matchs. Surtout, ça va être la grosse clé.
Jokic n'a pas eu 3 MVP de suite parce qu'on disait que c'était impossible de donner à un mec 3 fois de suite si c'était pas Larry Bird, etc. Je pense que Shea, il va clairement se manger aussi cette barrière.
C'est dans ce sens-là que je dis. Je dis pas qu'il le mériterait pas. Tout simplement qu'il l'aura pas, quoi.
Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment l'un et l'autre, Shea et Wemby, vont aborder la saison prochaine. Est-ce qu'il y aura cet objectif individuel en tête ou pas? Parce que OKC n'a pas forcément besoin de jouer toute la saison pour Shea, pour qu'il ait son troisième titre de MVP. Alors que je pense que les Spurs, c'est écrit. Hein. Vu ce qu'il a dit, d'ailleurs on peut l'écouter, mais vu ce qu'il a dit, sa réaction à Victor sur l'attribution du MVP à Shea, je pense que c'est assez clair, on va l'écouter.
I still got a lot to learn, and I want to get that trophy, you know, many times in my career.
Vous êtes d'accord avec lui ?
Complètement d'accord.
Oui, bah, évidemment. Et t'as surtout une énorme diff, je trouve, dans l'approche entre Shea et entre Wemby. Là où Wemby clame toujours ses intentions et vraiment aime faire passer des messages, Shea, il s'en fout. Il s'en fout complètement. À la fin de saison, quand on lui posait la question sur les déclats de Wemby, il lui disait bon, je m'en fous, je laisse mon basket parler pour moi.
Ils sont pas dans la même position.
Non.
Wemby a besoin de faire campagne, entre guillemets.
Mais c'était pour rebondir justement sur au début de saison prochaine. Je pense que Shea, il va complètement s'en foutre d'aller chercher un autre titre de MVP. Je pense qu'il s'en foutait déjà cette année. Il n'a pas du tout forcé, même dans son jeu, il a pas joué des matchs qu'il aurait pas dû jouer pour aller chercher. Il s'en fout complètement. C'était juste la logique.
Alors là, je suis pas du tout d'accord avec toi.
Tu trouves que Shea a forcé cette année pour l'avoir?
Bien sûr. Il y a des matchs où ils ont perdu. Il a joué exprès pour marquer ses 20 points, pour continuer série.
Non, ça c'était différent. C'était la série qui était all-time.
Sauf que pourquoi tu veux continuer une série si tu t'en fous des chiffres?
Et juste un dernier mot.
Ça n'a aucun intérêt.
Toutes les stars font ça un petit peu.
Mais j'ai pas le contraire. Je dis simplement qu'il faut arrêter de dire que lui il s'en fout. Non, il fait comme tout le monde.
Il s'en fout de la distinction.
Un dernier mot sur l'avenir, sur l'année prochaine. Est-ce que Luka Doncic peut pas venir mettre son grain de sable dans tout ça?
En fait, si, bien sûr que si.
Mais moi, j'ai peur qu'il subisse le fait qu'on ne croit plus aux Lakers et que je pense, j'ai l'impression qu'il
va y avoir du mouvement aux Lakers.
Faut voir les mouvements.
Depuis le temps qu'on en parle du mouvement.
Mais moi, je pense que c'est ce qu'il a subi. C'est ce qu'il a subi sur ces votes-là, c'est que je pense que les Lakers n'ont pas une forte crédibilité sur cette saison.
Oui,
tu ne crois pas forcément.
Excuse-moi, la fin de saison de Doncic avant de se blesser, elle est monumentale.
S'il fait
6 mois à ce niveau-là.
Et il ramène les Lakers sur le podium de l'Ouest.
Des Lakers beaucoup plus forts qu'on imaginait.
Mais bien sûr, mais malgré cela, il n'y a personne qui pouvait te dire moi, je crois en Lakers. Je crois dans les Lakers cette saison qu'ils peuvent faire quelque chose.
Et je pense qu'ils payent ce côté-là. Ça peut changer l'année prochaine.
J'espère pour eux, parce que c'est vrai que Doncic. Moi, j'ai peur que Doncic n'ait jamais rien à la fin.
De toute façon, je vous rappelle la prophétie de Fred. Les Lakers ne seront jamais champions avec Doncic.
Wow. Jamais, on est plus en numéro 1.
Mais est-ce que Doncic prendra un trophée ou quelque chose avant la fin de sa carrière, selon toi? Parce que, attention, ça peut aller très très vite. Et j'ai peur pour lui, moi.
Moi, je pense qu'il ne prendra rien du tout. Mais ce n'est pas ça la question. Je pense qu'il a fait une fin de saison, enfin même une saison extraordinaire. Et malgré ça, il n'est pas considéré. Oui, donc l'année prochaine, qu'est-ce qui va permettre qu'ils soient considérés ?
Bah, qu'ils aient une meilleure équipe.
Et oui, ils auront...
oui mais je veux dire, ils auront une meilleure équipe, mais ils ne seront pas top 3.
S'ils ne sont pas devant OKC ou les Spurs, il n'y aura pas de...
Donc il ne se passera rien, en fait. Même s'ils finissent 3e, c'est bien.
Ils finissent 3e avec des stats monstrueuses de Doncic. Parce que
si tu finis derrière Wemby, les Spurs ou Shea et OKC, moi je pense que ça va être le même scénario, en fait. Si tu es derrière ces mecs-là,
si tu es derrière les deux, tu n'as aucune chance.
Après, il faut en mettre 40 par match. Là, c'est autre chose.
Mais s'ils ramènent les Lakers sur le podium à la bataille un peu avec OKC et les Spurs, qui tournent à 35 points de moyenne, qui ont triple-double.
Félix, ils finissent 4e, les Lakers. Hein.
Là, cette année, oui.
Ouais.
Oui, oui.
Bah, il a 33 points.
Et il a 33 points de moyenne.
Hein. Il était dans la course pendant très longtemps avant de se blesser sur la fin de saison.
Non, il n'a jamais été dans la course. Il n'a jamais été dans le top 3. Jamais il a été dans le top 3.
Si, bien sûr, on en parlait.
Je ne suis pas sûr. Je vois qu'on parlait, mais pas eux là-bas.
On a fait le tour de la question. Donc, c'est Shea, le MVP. On va passer à la partie historique. Vous allez donc me présenter un joueur, un arrière, dominant, mais alors vraiment dominant, hein, d'accord, un des grands, un des plus grands, qui n'avait pas un gros tir à 3 points. Alors, Shea, en termes de réussite, c'est très très bon, mais il ne l'utilise pas son tir à 3 points. Sa moyenne en saison régulière, c'est 31, avec 1,7 tir à 3 points réussis par match. Donc voilà, ça fait en gros 5 points sur les 31 qui sont derrière la ligne. Fred, tu commences.
Ben écoute, je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait travailler avec des petits, donc j'ai choisi un petit. J'ai choisi Allen Iverson, qui mesurait 1m83 pour 75 kilos. Donc vraiment un homme extrêmement frêle. Il arrive en NBA en 96, tout le monde pense qu'il est trop petit, trop frêle, qu'il ne va jamais y arriver. Sauf que ce garçon va être 4 fois meilleur marqueur de la NBA, avec des moyennes de points juste ahurissantes. Il va même amener ses Sixers jusqu'en finale NBA, presque tout seul. Il va remporter le titre de MVP. C'est un joueur qui a inventé plein de choses. Les crossovers, évidemment. On se rappelle du crossover qu'il met sur Michael Jordan, entre autres. Il est rapide, il est courageux, parce que franchement, il va chaque fois s'impacter sur les gros pivots. Donc, je disais qu'il était meilleur marqueur 4 fois, 99, 2001, 2002, 2005. En 914 matchs, il est à 26,7 points de moyenne. Et vous savez combien il prend à 3 points sur ses points marqués ? 3,7 en moyenne. Il finira à 31,3% en général. Mais j'ai eu envie de prendre sa saison la plus prolifique au scoring pour justement vous montrer que le shoot à 3 points n'était vraiment pas son arme principale. En 2005-2006, il finit avec 33 points de moyenne. Il ne sera pas meilleur marqueur, ce sera Kobe Bryant avec 35,4, ce qui est juste monstrueux. Et il sera à 1 sur 3,1 à 3 points. C'est-à-dire qu'il marquera 3 points de moyenne sur ses 33 avec les shoots à 3 points. Ça veut dire qu'il avait évidemment un volume de jeu et de shoots à 2 points incroyable, plus de 22 shoots à 2 points, et il provoquera des fautes évidemment, plus de 11 lancers francs de moyenne. Tout ça pour dire qu'il était petit, il jouait meneur arrière. En fait, j'ai un peu triché, parce que normalement il est meneur, mais en réalité c'est un arrière.
Oui, mais ça marche. T'inquiète pas, t'es pas hors sujet.
Qui à cette époque-là était capable de marquer 33 points de moyenne sur une saison NBA, avec en moyenne sur ses 33 points seulement 3 points grâce au shoot à 3 points. C'est juste monstrueux, c'est juste incroyable. Et je me répète, c'était un tout petit, bien que pour vous il était grand, 1m83 pour 75 kilos.
Sacha, il ne devait pas être loin du 1m83.
Je crois qu'on fait après à même taille, ouais.
Ouais,
après, t'as pas moins de même talent. Hein,
alors, déjà, essaye de nous raconter une histoire correctement déjà. Je te dirais, tu as le même talent qu'Allen Iverson.
Le joueur que j'ai choisi, c'est un des joueurs auxquels je voulais ressembler quand j'ai commencé le basket.
Voilà, ça commence bien.
Ultra flashy, clutch, monstrueux des deux côtés du terrain.
C'est Bill Laimbeer le mec que tu as choisi ?
Non. Bah après, j'ai vite compris que j'aurais plus une carrière à la Dean Wade que Dwayne Wade finalement. Mais je vais parler de Dwayne Wade quand même. Le seul homme qui est plus chaud que la chaleur même de Miami quand même, qui était partout sur le terrain et qui, je pense, l'incarnation même du mec qui est dominant sans avoir de shoot à 3 points, parce que lui, le vrai danger, c'était dès qu'il passait en fait la ligne à 3 points, il avait tout l'arsenal. Donc on rappelle qu'il a été drafté sur le tard, 21 ans, la fameuse draft 2003 avec LeBron, avec Melo, etc. Sortait de l'université de Marquette, c'est pas une grosse fac non plus, mais c'est lui qui lui aura donné de beaux moments avec un Final Four sur le championnat universitaire. 1m93, pas forcément hyper grand, alors qu'on était sur...
10 mètres de plus que le mien, mais vas-y.
Oui, mais on avait l'évolution des profils physiques à cette époque-là, où tu vois, on commence à avoir les vraiment 2m6 très mobiles qui savent faire un petit peu tout sur le terrain. Donc, il était un petit peu plus petit que ça, Dwayne Wade, et ses premiers pas dévastateurs, footwork de génie, capacité à finir dans toutes les positions, shoot à mi-distance, Eurostep, c'est 22 points de moyenne en carrière à 48% au tir, 29% à 3 points. Donc tu vois que et c'est vraiment sur le tard, je pense, qu'il commence à prendre beaucoup de shoot à 3 parce que le jeu évolue.
Bah, Dwayne Wade, moi, il m'a fait rêver, tout simplement. Les circus shots, champion dès sa troisième saison avec Miami, quand même, il renverse les finales où ils sont menés 2-0 par les Mavs de Nowitzki. Il finit à 34,7 points de moyenne sur les finales, l'un des plus jeunes MVP des finales de l'histoire, et il prend 0,5 tirs à 3 points par match dans cette série-là. En fait, c'était vraiment le slasher ultime. Dès qu'il y a un espace, il le prend, il provoque la faute, N1, il met les lancers, et après, derrière, il va défendre comme un chien sur le meilleur joueur. C'est l'un des meilleurs contreurs aussi de l'histoire pour des joueurs de moins de 2 mètres, juste derrière Michael Jordan. Voilà, pour moi, le hit de Miami, c'est à jamais l'équipe finalement de Dwayne Wade. Ça veut dire qu'il s'est mis sur le siège passager, il a laissé LeBron conduire, mais ça reste sa franchise à lui, et c'est lui qui a toujours eu les clés. Moi, je me rappellerai aussi toujours ce shoot clutch face à Chicago, où tu sais, il monte sur la table et fait « This is my house !» Ça, c'était exceptionnel. Et je sais pas si vous êtes déjà allé à Miami, mais quand tu arrives à Miami, il y a écrit « Welcome to Miami-Dade County ». Mais sauf que quand il jouait là-bas, c'était « Welcome to Miami Wade County ».
Bravo.
Voilà.
Un joueur très, très kiffant, Dwayne Wade. Hein.
Oui, c'est beaucoup plaisir. Oui. Mais Allen Iverson aussi.
Allen Iverson aussi.
J'étais dégoûté quand j'ai vu que Sacha avait pris ça dans le
jeu. Ah, j'ai snipé le direct.
Il était trop rapide.
Il l'a fait avec le cœur. Hein. Ouais, là, tu sens qu'il est amoureux. Hein.
Ah, ouais, vraiment. C'est mon premier coup de cœur.
Mais qui tu préfères, Wade ou Trae Young?
C'est pas pareil. Mais tu sais, les meilleurs souvenirs que j'ai de l'époque, c'est Cavs, Heat, Wade contre LeBron. Et c'est là où il y a le fameux poster sur Varejao, où juste avant, LeBron, il rate un dunk aussi. Mais c'est des souvenirs de match que j'ai qui sont formidables.
À toi, Félix.
Bah, Pierrot, tu voulais des mecs dominants. Donc moi, j'ai pris, je sais pas si tu connais, un certain Michael Jordan, qui était plutôt dominant en son époque, mais qui ne shootait absolument pas à 3 points. Je me suis penché sur ses chiffres, notamment en début de carrière, où c'est là où c'est le plus dingue. Sur ses 4 premières saisons, il tournait à 16% à 3 points en prenant moins d'un par match. Donc ça fait pas beaucoup. Et en gros, il était à 0,1 sur 0,8 par match. Et ce qui est le plus choquant, c'est que c'est pile pendant cette période qu'il a réalisé ses années les plus prolifiques au scoring. En 86-87, c'est sa troisième année en NBA. Il tourne à 37 points de moyenne. Donc comparé à Iverson, c'est 33 points. Voilà, là, on est encore un step au-dessus. 37 points de moyenne.
Alors c'est pas la même génération, c'est pour pas ça que je n'ai pas beaucoup à 3 points. Mais après, si tu ne connais pas les générations NBA, il n'y a pas de problème.
Mais c'est quoi, je vais y revenir en fait, parce que je te connais tellement que j'ai préparé tous mes arguments. C'est imparable. Et on va y venir à la fin de mon récit.
C'est un peu présent.
Donc il tourne à 37 points de moyenne en ne marquant que 12 3 points en cumulé sur l'ensemble des 82 matchs. Il a mis 12 3 points sur la saison. Dans le détail, il tourne à 12 sur 66 sur la saison, soit un très vilain 16%. Donc là, concrètement, il a sorti une saison à 37 points de moyenne, ce qui est la meilleure saison au scoring de l'histoire en dehors de Will Chamberlain, en rentrant grosso modo un shoot à 3 points tous les 7 matchs. Et rebelote
c'est pas beaucoup.
Ah, c'est pas beaucoup, non. 87-88, donc la saison d'après, il tourne à 35 points de moyenne en marquant 7 3 points sur l'ensemble de la saison régulière, avec un affreux 13% de réussite. Caruso a mis autant de 3 points sur le match d'hier que Jordan sur la saison entière cette saison-là. Et alors derrière, plus tard sur sa carrière, ses pourcentages et son volume, ils montent un tout petit peu. Mais quand on fait le bilan sur les 15 saisons NBA de Jordan, il tourne à moins de 33% en carrière pour un volume très faible de 0,5 tirs à 3 points marqués par match. Donc il rentrait 1-3 points tous les 2 matchs en carrière. Et pour rigoler, j'ai cherché un joueur cette saison qui tournait à 33% et 0,5 3 points par match marqué.
Alors attends, on va essayer de trouver.
Essayer de trouver. Donc 33% de réussite et 0,5 3 points marqués par match.
C'est dur. Déjà, qui shoot aujourd'hui à moins de 20% de réussite? Il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Démarre de Rosen.
À 33%
de réussite, mais 0,5 marqué par match.
C'est un pivot qui n'aime pas shooter, tu vois, mais qui est plutôt adroit.
Même Rudy il en prend pas. Donc ça peut pas être lui.
Jarrett Allen, sur un concours de circonstances.
Non, on est Klingon.
Non. On
est... Kelly Olynyk.
Non, on est sûr. Yanis Antetokounmpo.
Ah, wow, bien,
c'est Yanis. Exactement incroyable. Ces stats-là dans le pourcentage de réussite et dans le volume en rentrée. Donc voilà, Jordan n'a jamais eu besoin des 3 points pour scorer dans sa carrière. Et j'ai trouvé un seul contre-exemple. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce match-là, si vous connaissez le surnom de ce match-là, c'est le Shrug Game de 1992.
Non.
Toi qui es bilingue, Fred, le Shrug. Voilà, c'est, ouais, c'est ce fameux match du haussement d'épaule.
Vas-y. Non, continue.
Ce fameux match du haussement d'épaule, c'est dans le Game 1 des finales NBA contre Portland. Il met 35 points en première mi-temps. C'est un record pour des finales NBA qui tient encore, grâce à 6 3 points de suite. Il a mis 6 3 points de suite dans la mi-temps, soit presque autant de 3 points que sur l'intégralité de la saison 87-88 dont j'ai parlé tout à l'heure, où c'était 7 3 points sur la saison. Donc le, je crois que c'est cette image iconique quand il se retourne vers la table de marque, qui fait ce petit haussement d'épaule pour montrer que même lui, il est surpris. D'ailleurs, il l'a dit après le match, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils rentraient tous, personne ne s'y attendait, mais j'ai saisi ma chance, je me suis surpris moi-même d'être aussi chaud. Et donc là, c'est là que je reviens à ton argument tout à l'heure, Fred. On ne saura jamais si Jordan, il aurait pu s'adapter à l'NBA des années 2010-2020. Peut-être qu'il aurait pris plein de 3 points, qu'il aurait tourné à 40% de réussite en mettant 3-4 par match. Mais en tout cas, dans les années 90, il était lui-même surpris que ça tombe dedans. Et surtout, j'ai regardé en 97-98, l'année de son dernier trick avec les Bulls, ce que ça donnait au niveau des joueurs de son poste. J'ai regardé sur les 200 guards, donc meneurs arrière répertoriés sur le site de l'NBA, saison 97-88, il y en a 109 qui marquait plus de 3 points par match que Jordan.
Donc c'est
plus,
ouf.
Donc plus de la moitié des joueurs de son poste mettaient plus de 3 points que lui. Mais du coup, lui, ça prouve que c'était pas forcément une question d'époque, mais plutôt lui d'un choix. Il a, sur la fin de sa carrière.
Quand tu fais 1m98, t'as plus d'un mètre de détente, c'est un peu plus logique qu'un mec 83 qui fait 75 kilos.
À cette époque-là, t'avais des Reggie Miller, t'avais des mecs comme ça, t'avais les meneurs arrière.
Il était plus connu pour être.
Si shootait, lui, c'était, voilà, tout ça pour dire que lui, c'était plus, pas forcément l'époque, parce que même à la fin de sa carrière, il a décidé, c'était plus un choix. Il s'en foutait, il n'avait pas besoin de ça pour marquer 35 pantons par match.
Toute petite parenthèse avant le quiz sur ta stat de Giannis.
Oui.
Il a arrêté de vouloir shooter à 3 points, en fait.
C'est beaucoup mieux.
Et c'est très bien comme ça,
c'est
non
très bien comme ça. Oui, bien sûr.
Mais il en prend encore plus d'un par match.
Oui, mais il y a
un moment où
on a cru qu'il voulait faire évoluer son jeu en ayant lui aussi, en étant une menace.
Il a fait évoluer son jeu. Il prend plus de shoot à 3 points. Tu vois, comme quoi.
Non, mais la clé pour Giannis, c'est juste de prendre les shoots ouverts. En gros, de ne pas laisser 3 mètres devant toi, comme on peut faire avec Rudy Gobert, qu'on a pris un d'ailleurs sur la série contre les Spurs au deuxième tour.
Il y a un beau petit casting dans cette partie historique.
Hein. Vous voulez des joueurs dominants.
Dwayne Wade, Allen Iverson, Michael Jordan. Le quiz.
Je m'appelle Frédéric, j'ai joué au basket un petit peu quelques années, et j'ai même joué dans un film. Je peux insulter Kevin Garnett, qui est un débile profond absolu. Ensuite, il est juste pas gentil, en fait, ce mec. Ce mec est pas gentil. Et tu sais quoi aussi, la plupart des gens, quand un basketteur shoot dans la corbeille et qu'il rate, il dit « Ah bah, t'es basketteur pourtant bah, ». Je dis « Oui, basketteur, c'est pas mettre du papier dans les corbeilles. Hein. »
Il dit les termes.
Ok. Alors, un petit quiz pas trop difficile aujourd'hui. On va démarrer avec un blind test. Chaque chanson a un rapport avec une des villes qualifiées pour les finales de NBA. New York. Ouais, faut trouver l'interprète.
Frank Sinatra.
Ouais, c'est pour Sacha.
Mon oncle. Pas Qu'est-ce du tout.
Pourquoi t'as attendu tant que ça?
Mais parce que je pensais que New York, ça suffisait.
Ah non.
Dès que t'as dit interprète, j'ai lancé le truc.
Alors, la deuxième chanson, le deuxième morceau pas très connu. En revanche, l'interprète est très connu. Il faut peut-être attendre sa voix. Elvis Presley, bravo. Alors, le morceau.
Tu sais que j'avais pas capté qu'on allait changer de chanson là. Terrible.
Pas grave, c'est comme ça. Faut s'adapter à la compétition. La chanson, le morceau, c'est pas son plus connu. Ça s'appelle Never Been to Spain. Mais dans les paroles.
Il est jamais allé en Allemagne, c'est ça?
Jamais allé en Espagne, mais il est allé à Oklahoma City. Et enfin, très facile, rapidité.
Sting,
bravo Fred.
An Englishman in New York.
Exactement. Ça fait un point chacun, on passe à la culture générale. Nous allons parler des cowboys du Texas. Vrai ou faux sur les cowboys du Texas? Ok? Alors, on démarre avec Sacha. Vrai ou faux, le plus grand ranch du Texas est grand comme 30 fois Paris. 30 fois, pas 3 fois, hein, 30 fois Paris. Vrai, c'est vrai. King
c'est
Ranch,
plus gros, Texas.
3300 km². C'est plus grand que le Luxembourg.
C'est
quand même ouf. Hein. Ensuite, Félix, les cowboys utilisaient énormément leurs pistolets et chassaient les primes.
Ah, c'est faux, c'est une idée reçue, Pierrot.
Tout à fait, c'est faux. Tout simplement parce que les armes coûtaient très très cher. Et leur principale activité, c'était de garder leurs vaches.
Oui.
Fred, les cowboys passaient plus de 12 heures par jour, hein, sur leur cheval.
Évidemment.
Évidemment, oui, c'est vrai, tout à fait. Donc vous êtes chacun à
deux. On est des cowboys.
Et enfin, personnage fictif ou réel. Je vous donne le nom d'un cowboy. Il a existé ou il n'a pas existé. Ok, Sacha, t'es prêt?
Oui.
Billy the Kid.
Bah oui.
Ah oui. Félix, Wyatt Earp.
Oui.
Oui, interprété par Kevin Costner. Et enfin, Fred Calamity Jane.
Oui.
Oui, bien sûr. Ça fait 3 points, bravo. Vous connaissez bien vos cow-boys, on va donc passer au basket. C'est parti. Quel joueur au pluriel ont obtenu 1 point lors du vote du MVP ?
Kay Cunningham.
Ouais.
Non.
Plusieurs, attends, il faut dire plusieurs joueurs.
Oui, plusieurs joueurs ont obtenu juste un point.
Ah, juste un point.
Ah oui. Non, juste un point, un seul petit point. Mais ils sont dans le classement.
Waouh. Yanis ?
Non. De cette saison, hein, on parle. Hein.
Doncic ?
Non.
Jalen Johnson ?
Non.
Brunson ?
Non.
Donovan Mitchell ?
Oui, il s'en fait un pour Sacha. Et l'autre ? Les plus grandes mains. Les plus grandes mains de la ligue. Kawhi.
Ah oui, Kawhi, on peut
absolument. Ensuite, donc ça fait 2 points.
Et qui leur a donné des. Enfin,
c'est juste une troisième place.
Ouais, c'est une troisième place, quoi.
C'est ça, un point. Bah, ils sont dans le classement.
Non, mais sympa. C'est une cinquième place.
C'est humiliant ou pas ?
Non,
bah, d'avoir un point.
Non,
bah, il vaut mieux avoir un point que zéro.
Ah, ouais, zéro, c'est plus humiliant, quand même.
Donc, c'est une boucle, hein, évidemment, puisqu'il n'y a pas de thème. Donc, on est sur Kawhi. Lorsque Kawhi quitte les Spurs pour Toronto, quelle franchise visait-il ? Où voulait-il signer ?
Miami.
Clippers. Angeles,
moi, j'ai dit Miami.
Lakers.
Les Lakers, absolument. Ah, oui. Lui, il voulait aller aux Lakers. Il l'envoie, il le bazarde à Toronto. Parce qu'il voulait le faire chier, hein, tout simplement.
Oui. Hein. Oui, mais ça, c'est pas si mal.
Ah, c'est bien passé.
C'est bien passé.
Par contre, cette histoire est folle pour Toronto, quand même. Parce qu'ils le récupèrent avec une année de contrat. Ils sont champions et chut, ça dégage. Du coup, Lakers ou Clippers, les deux ou aucun des deux. Ok.
Okay.
T'as compris le concept, yes, Sacha, yes. Toi t'es pas là toutes les semaines alors. C'est toi qui démarres et c'est toi qui as l'avantage. Pour l'instant, 5 points, 4 pour Fred, 3 pour Félix. Pour Sacha, au tout début, dans les années 40, la franchise se trouvait à Détroit.
Oh.
Lakers, Clippers, les deux ou aucun des deux ?
Aucun des deux.
Les Los Angeles Lakers s'appelaient les Detroit James, jouant en NBL. Wow. 46-47. Champion de la division Pacifique 2013 et 2014, Félix.
Ah, c'est l'année où il y a Chris Paul, Blake Griffin, je dirais les Clippers.
C'est la bonne réponse. Plusieurs de mes joueurs ont obtenu le trophée de MVP sous mes couleurs. Sous mes couleurs. Fred.
Lakers.
Bah oui, les Lakers. J'ai jamais eu un MVP aux Clippers. Sacha, DeAndre Jordan a joué sous mes couleurs.
Les deux ?
Les deux, absolument. Il a fait un bout de saison aux Lakers. Donc, ça fait un point de plus pour Sacha. Lamar Odom, Félix, a disputé son dernier match NBA sous mes couleurs.
Ah. Hein. Est-ce qu'il a... Allez, j'ai envie de dire aucun des deux.
Alors, c'est aux Clippers.
C'est aux Clippers.
Même si ensuite, il a signé aux Knicks postérieurement, mais n'a joué aucun match. Mmh. Donc, son dernier, c'est avec les Clippers. Et enfin, Fred, je fais partie des 6 franchises. Écoute bien la question. Dont la masse salariale dépassait les 200 millions en début de saison. En début de saison.
Les Clippers ?
Eh bien, ni l'un ni l'autre. Mmh. C'est pas partie des 6 franchises les plus riches, pas tout à fait, mais qui dépensent
le plus.
C'était les Cavs en début de saison, devant les Warriors, les Knicks, les Wolves et les Mavs. Les Lakers et les Clippers sont égalités à 194 et quelques millions de dollars. Ensuite, donc, qui détient le meilleur pourcentage à 3 points ? C'est pour tout le monde. Hein. Qui détient le meilleur pourcentage à 3 points de l'histoire des Clippers ?
Crawford ?
Reddick ?
Jamal Crawford ?
DJ Reddick ?
Bravo.
Ah, oui, oui.
Ah bravo. Ouais. Hein. 44%. Bravo, Sacha. Là. Mérité. Hein.
Non, mérité.
Là, c'est magnifique. Qui détient le meilleur pourcentage à 3 points de l'histoire des Lakers ?
Jerry West ?
Non. C'est pas facile.
C'est Devin George.
C'est pas évident. Non, c'est un joueur plus récent.
Derek mais... Fisher.
Non.
Luke Kennard.
Non.
Plus récent.
Plus récent. Non, moins récent que Luke Kennard.
On est pas loin de Derek Fisher.
Et on est à peu près dans les mêmes époques que.
Sacha Vujacic.
Non. C'est plus beaucoup plus connu, beaucoup plus fort.
Stojakovic.
Légende. Légende de la NBA, mais pas légende des Lakers.
Légende de la NBA, mais
double
pas des
MVP.
Lakers.
Double.
Steve Nash.
Oui, absolument.
Oh, ah, je m'en rappelle.
Qu'est-ce qui a été horrible, cette équipe.
Elle a été horrible.
Horrible.
Oui, ouais, on avait oublié. Hein.
Oui.
8 points pour Sacha, 4 pour Félix, 5 pour Fred. Quand Steve Nash est MVP en 2005, qui est deuxième ?
Bobby. Duncan.
Non, ni un ni l'autre.
LeBron ?
Non.
Iverson ?
Non. 2005.
T-Mac ?
Non.
T'as dit Nowitzki ?
2005 ?
Ouais.
T'as dit Nowitzki 2005.
Shaq ?
Oui, bravo Sacha. Sacha, il
Miami, pas. Deuxième année à Miami, bien.
Sacha, il prend son temps et bam, il t'envoie la réponse. Quand Steve Nash est MVP en 2006, Kobe. Qui est deuxième? Non.
Duncan.
Ah ouais?
Non. LeBron.
LeBron, oui, quand même. LeBron James est le joueur. LeBron James est le joueur qui a joué le plus de matchs en playoff. Qui est deuxième?
Duncan.
Non.
Je le dis à chaque fois.
Abdul Jabbar?
Non.
Ah, putain, je crois que je l'ai vu.
Russell?
James Harden.
Non, il a été cité déjà dans ce quiz.
D-Wade?
C'était pas une bonne réponse.
Non, pas D-Wade. Curry?
Non.
Nowitzki?
Non.
Le plus de matchs en playoff?
Mm-hmm.
Oh wow. Robinson?
Chamberlain?
Longévité, grande Bill Russell. Équipe, mais pas le meilleur joueur de la grande équipe.
Scottie Pippen?
Non.
Longévité, grande équipe.
Ah, longévité, hein, pour le coup, ouais. Mais pas le meilleur joueur. Hein. Vraiment pas.
Robert Horry?
Non, mais bien moins fort que Karl Malone. On va pas du tout le même poste.
Ouais.
Hein.
C'est
un arrière.
Moins majeur que.
Un meneur.
Steve Kerr?
Jerry West?
Non.
Steve Nash?
Non.
Tony Parker?
Non.
Chris Paul?
Non.
C'est terrible.
C'est Félix qui l'a cité tout à l'heure.
Oh.
Mais après, c'est pas facile. Mais...
Non,
mais
oui, non.
Voilà.
Ah, c'est bah oui, oui.
Voilà, 259 matchs de playoff quand même. Hein.
C'est beau,
pas mal.
Vrai ou faux sur Derek Fisher? Sacha, il a terminé sa carrière à Dallas, Derek Fisher.
Oh, je veux dire faux.
C'est faux, il a terminé à OKC, bravo. Félix, il a gagné plus de titres que LeBron James.
Plus de titres? Non, il n'en a pas plus que... Non, faux.
C'est vrai, il en a un de plus.
Ah ouais?
Un 5. Et enfin, il a entraîné les Nets, Derek Fisher.
Ouais, c'est vrai.
Et non, c'est faux, il en fait les Knicks. Donc, on est à 10 points pour Sacha, qui a fait la 10. Félix 5 et Fred 6. C'est pas complètement fini. Dans l'effectif actuel des Nets, pour le coup, quel joueur a joué en France?
Nolan Traoré.
Ah oui, tout simplement. Il y avait un piège, mais Félix n'est pas tombé dedans. Et enfin, lors de ces finales NBA, deux joueurs qui ont été coéquipiers en France s'affrontent. De qui s'agit-il?
AJ Mitchell et Wembanyama.
Bravo. À Nanterre.
À Nanterre, ouais.
Bravo.
Avant, c'est fort. J'applaudis, c'est fort.
Avant Victor Wembanyama, troisième, quel Français a obtenu le meilleur classement d'un vote MVP?
Joachim Noah.
Joachim Noah, ouais.
Oui, c'est Joachim Noah, bravo. Ça se resserre, ça fait 7 points pour Félix, 7 points pour Fred et 10 pour Sacha.
L'écroulement dans le money time de Sacha.
On a fini la boucle, on passe à la question Mesmer.
Le nouveau spectacle de Mesmer avec RMC.
Je vais vous faire la question où vous devez être d'accord avec moi pour avoir le point.
Oh putain, ah, putain, il recommence.
Osez l'expérience où maîtrise de soi et fascination se rencontrent.
Tu peux me séparer.
T'as trouvé ça où, toi?
Mais qu'est-ce que tu me fais chier, toi? Voici la question Mesmer
avec RMC.
Tu maîtrises le concept, Sacha?
Ouais,
c'est bon,
t'inquiète.
Voici la question Mesmer du jour. Êtes-vous sûr à 100%, au fond de vous, que James Harden ne sera jamais champion NBA? Sacha?
Non. Je pense qu'il peut être champion NBA parce que James Harden, ça reste un talent exceptionnel qui peut se mettre au service du collectif. N'oubliez jamais qu'il a été un grand défenseur avant d'être un des meilleurs attaquants de l'histoire de la NBA quand même. Et je pense qu'à un moment donné, il va réaliser au milieu d'une séance de striptease que finalement, un titre NBA, ça pourrait lui permettre de marquer l'histoire. Et à ce moment-là...
À un moment donné, il reste pas beaucoup de temps quand tu dis à un moment donné.
Oui, mais tu peux toujours...
Dans 10-15 ans,
tu peux toujours être ce mec en sortie de banc, on le laisse faire un petit peu n'importe quoi et t'es dans une bonne équipe et tu joueras 10 minutes dans quelque chose qui joue le titre. Et je pense qu'Harden va avoir la fin de cette crise d'adolescence qui est quand même très prolongée et qui va se rendre compte des choses.
Non, moi, 52 ans, il était seul.
Je note crise d'adolescence parce que ça, je ne l'attendais pas quand même. À toi, Félix.
Tu peux répéter la question, redire exactement.
Alors,
le...
Êtes-vous sûr, vous, hein,
oui.
À 100%, est-ce que vous avez la conviction à 100% que James Harden ne sera jamais champion NBA? C'est
oui,
la question.
Je suis sûr à 100% que James Harden ne sera jamais. J'ai cette conviction.
Je ne vous demande pas d'avoir la bonne réponse. Hein, le point, il est attribué maintenant. Hein. Est-ce que vous en avez la conviction?
J'en ai la conviction. Là, j'en suis sûr à 100%, Pierrot. Non. Et je sais que tu veux à chaque fois, tu me donnes des points. Tu ne donnes pas les points parce que je ne suis pas assez tranché. Là, je suis tranché. Il ne l'aura jamais parce que c'est l'un des plus gros choqueurs de toute l'histoire de la NBA. Et que concrètement, quand tu regardes, j'en ai assez parlé tout à l'heure, Cleveland ne sera jamais champion NBA cette année. C'est l'équipe la plus faible de ce dernier carré. Et après, comme tu l'as dit, il commence à devenir vieux. Je ne vois pas dans quel monde derrière. Il a encore des saisons à donner pour pouvoir aller chercher une bague.
C'est très clair. Fred?
Première option, non.
Non.
Deuxième option, non. Troisième option, non. Quatrième option, non.
Cinquième option, non, peut-être sixième option, dans une équipe, en fin de carrière, où on a besoin d'un mec qui il rentre, il va prendre des shoots n'importe comment, et ça peut rentrer, et peut-être qu'il ne rentrera même pas. Et dans ce cas de figure, oui, en se disant, je signe pour le minimum vet, je vais dans une équipe qui est contender, je boucle la boucle à OKC, et pourquoi pas.
Je crois qu'il a été meilleur sixième homme.
Il a été meilleur sixième homme. Mais là, il pourrait être meilleur douzième. Et voilà, c'est parfait.
Et il accepterait un minimum vétéran.
Je pense qu'il a besoin de cette bague pour la reconnaissance. Et je pense que sa crise d'adolescence, j'avais pas ce terme, mais je suis assez d'accord. Je pense qu'il sait que c'est pas suffisant pour que les gens s'appellent vraiment lui.
Il s'en fout.
Et je pense qu'il va gagner une bague avec OKC en revenant à la maison. Ça ferait un storytelling magnifique.
Il s'en fout. Non, mais James Harden, il s'en fout de ses legacy.
Mais on dirait que tu les connais, les mecs.
Bien sûr, j'étais avec lui hier.
Hier, on discutait, on était au strip. Maria, elle sait que tu vas au strip.
Ah, mais on en parlera hors micro, Fred. Ouais, bah non, mais il s'en fout.
Scandaleux quand même d'aller au boîte de strip quand même, sans prévenir sa femme. Non.
Alors, c'est assez intéressant cette question, Mesmer, parce qu'il y a quand même des vrais marqueurs, c'est que Félix est toujours à côté. Alors, ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon ou que tu ne t'y connais pas en basket, juste on ne voit pas les choses de la même manière, parce que pour moi, il n'y a aucune fatalité à ce que quelqu'un soit un choker, ne soit jamais champion, ceci, cela. Ils sont en finale après tout à l'Est. Je vois pas. C'est pas impossible qu'un jour, un petit coup de chance, la pièce qui tombe du bon côté.
Cette année en plus.
Imagine cette année, exactement. Un point pour Sacha, un point pour Fred, pour vous départager. Donc il y a 4 points d'écart, Félix, sur Sacha. Il y a 7 noms à trouver. Tous les MVP des années 2010 aux enchères. C'est toi qui commence, Félix, puisque c'est toi qui es en retard. Il y en a 7 à trouver.
7 dans les années 2010.
Ouais. 2010, c'est 2010-2019, je précise. Hein.
Ouais. Eh ben,
donc 2010 en fait partie, oui. Et 2020 n'en fait pas partie, évidemment.
Eh ben, je vais dire 7.
Allez, on y va. 7, donc si tu les trouves, t'as gagné. Sinon, c'est Sacha.
LeBron James.
C'est bon.
Stephen Curry.
C'est bon.
Attends, ce que je veux. Donc ça va aussi. C'est 2020, ça compte aussi. Yannis Antetokounmpo.
Non, 2020 non, compte pas.
2020 compte pas, ok. Attends, parce que là j'ai un trou, faut que je me refasse à chaque.
Je te laisse 30 secondes, pas ouais. Plus.
Mais moi j'ai une question, nous on nous demande pas donc.
Ah non, ça y est, il a pris les 5 enchères à maximum.
On a plus notre destin en main. Ah, okay.
Il a décidé de prendre le shoot de la gagne. On va voir s'il met un shoot à 7 points.
Allez, Wemby.
Kevin Durant.
C'est bon.
Russell Westbrook.
En fait, 3, 4.
Après, attends, je réfléchis. James Harden.
C'est bon. 5. T'en manque 2.
Oui.
Vous les avez ?
Bah, j'ai décroché.
Fred, Sacha.
Je pense qu'il va y arriver. Donc
alors,
j'ai
je vais
décroché.
Vous dire qui a dit LeBron, Kevin Durant, Steph Curry, Russell Westbrook, James Harden.
Ah oui, oui, si, c'est vous. Oui.
C'est bon ? Allez, là par contre, t'as plus beaucoup de marge. Hein. Faut y aller. Hein.
Ah, j'ai un trou sur les deux derniers. Non. Je sens que ça va être évident.
Non, il mais... y en a un, je t'ai pas aidé.
Ah ouais ?
Donc tu peux le donner.
Pourquoi ?
Parce que je t'ai interrompu, tu étais dans un raisonnement de merde.
Yannis,
c'est ouais. Bon, en 2019.
Ouais, voilà.
Et il t'en manque un,
ouais.
Et c'est normal, parce que c'est pas le plus évident. Et donc, soit ça tilte, soit ça tilte pas. Je te laisse 15 secondes. 10. Terrible.
Ah, non. On est sur tête...
5, 4, 3, 2, 1.
Ah, j'aurais
Derrick
pas...
Rose.
Ah, mais oui. Oh, terrible. Terrible.
Victoire de Sacha. Oh là là. Sacha, à la semaine prochaine. RMC Basket Time.